Alors, le sujet, c'est comme ça. Bonsoir Gad, tu es venu peut-être la semaine dernière. Oui, je suis désolé. Je ne savais pas comment te joindre, je n'ai pas fait cours la semaine dernière.
Ah non, moi je n'étais pas venu.
Ah, t'es pas venu. Ah d'accord, bon, alors, tout va bien. La morale est sauve. Ok. Alors. Voilà, donc le sujet, on a étudié à l'Yeshiva des points au fil des années. Vous savez déjà, vous avez entendu parler, qu'il y a une notion de notre tradition de Mashiach. Hein ? Vous avez déjà entendu parler, hein ? Voilà. Alors Rambam dit que c'est une notion fondamentale de notre tradition. C'est un des fondements de notre Emouna, que il va y avoir un moment où il va y avoir un descendant de David qui va ramener les exilés, les enfants d'Israël vont revenir à la Torah, et les nations reconnaîtront le peuple d'Israël. Il y aura des grandes guerres parce que ça va bouleverser énormément de choses. Des grandes nations vont s'effondrer et d'autres nations vont faire teshuva. Et il y aura donc, on pourrait dire, un tikkun, un aboutissement, réparation quoi, de tout ce qui a été dégradé au fil des siècles et des générations. Alors, bon, c'est un très grand sujet. Maintenant, la question, on parle. Donc, tout ça, on sait par tradition, que ça se fera par le biais d'un descendant du roi David, c'est par le biais d'un homme, d'un humain, de la tribu de Yehuda. Voilà. Maintenant, à quoi ressemblait la personnalité de cette personne? Alors, on peut dire, on ne sait pas, quoi, on verra. Mais dans notre tradition, il y a beaucoup de textes prophétiques. Il y a beaucoup de textes prophétiques. Il y a 24 livres prophétiques. Bonsoir. Il y a 24 livres prophétiques, les 5 livres de la Torah, et 19 autres livres. Alors, tu peux te mettre un peu comme ça, parce que je ne vois pas mes camarades. Beaucoup de livres prophétiques. Alors, quand on lit ces textes, ça a l'air d'être des récits de cap et d'épée. Des fois, le livre de Shmuel, ça a l'air d'être des récits de cap et d'épée, des scénarios sympathiques. Mais la tradition talmudique nous donne des outils pour voir ces textes, pas simplement à un niveau anecdotique, mais à un niveau prophétique. Voilà. Et alors, sur le sujet posé, il y a énormément de matériaux. Le Maharal de Prague a écrit un livre pratiquement entier sur le sujet qui s'appelle « Le Netzar Israël ». Alors, je pense que ce sujet, moi, il me motive. Et peut-être qu'on va faire ça sur plusieurs semaines, mais on va commencer par un passage que nous avons étudié récemment à l'Yeshiva, le 6e chapitre du 2e livre de Shmuel. Alors, j'ai fait des photocopies. Alors, il n'y a pas les commentaires, mais je vous les rapporterai oralement. Voilà, si toi tu veux faire pro, là. On va se la jouer pro. Alors, avant de voir les versets, je veux vous mettre dans le contexte. Hein. Environ 400 ans après la rentrée des enfants d'Israël en terre de Canaan, avec Josué, environ 400 ans, il y a eu 400 ans de ce qu'on appelle les juges, les shoftim. Bien. Ensuite, il y a eu, on pourrait dire, le dernier des juges, c'est Shmuel. Les enfants d'Israël, à l'époque, ont demandé de nommer un roi. Parce que jusque-là, il n'y avait pas une instance centrale qui était un roi. Et sur la parole d'Hachem, il y a eu le premier roi d'Israël, ça a été Shaoul, ça a été Saül. Bien. Le royaume, le règne de Shaoul, de Saül, n'a pas duré longtemps. Et pour des raisons, il a fait une faute précise. Il n'a pas tué tous les Amalécites. Donc il n'a pas accompli l'ordre qu'Hachem lui avait donné. Il a été évincé. Et clandestinement, le prophète Shmuel a nommé un autre. C'est David, de la tribu de Yehuda. Shaoul était la tribu de Binyamin, Benjamin. Et clandestinement, David a été nommé roi clandestinement. On sait que ensuite David, il y avait pratiquement personne savait qu'il avait été nommé par le prophète. Il a sauvé le peuple d'Israël en tuant Goliath. Et à la suite de ça, il a épousé Michal, la fille du roi Shaoul. Bon, ensuite, pendant des épisodes et des épisodes, Shaoul, ayant compris qu'il allait être évincé par ce petit jeune là. Il a eu de cesse à vouloir le tuer, bien que c'était son gendre. Ok. Bon, finalement, Shaoul meurt. Avant que David ait été reconnu comme roi par tout Israël, ça prend quelques années. Et au bout de 7 ans, David a été roi sur la tribu de Yehuda à Hebron, pendant 7 ans, mais au bout de 7 ans, à l'âge de 30 ans, il a été reconnu par les 12 tribus comme étant roi de tout Israël. Voilà. Bon. Maintenant qu'il a été nommé, accepté comme roi sur tout Israël, qu'est-ce qu'il va faire ? Première chose, il va conquérir Jérusalem. Parce que Josué ait conquis toute la terre de Canaan, il y avait un seul endroit qui n'avait pas conquis, c'est Jérusalem, pour des raisons multiples et diverses. Entre parenthèses, on étudie, nous, une fois toutes les 2 semaines à la Yeshiva, le livre de Shmuel. Tout ça, c'est enregistré, c'est sur le site de Yeshiva Zetina. Il y en a qui, je ne sais pas moi, 2 heures multipliées par 50, vous pouvez avoir 100 heures en boucle sur ce sujet, si vous voulez. vous n'êtes pas obligé, d'accord. Mais pour tout ça, on a étudié avec un groupe, dans les années précédentes. Ok, donc pourquoi Jérusalem n'a pas été conquise par Josué, c'est une histoire complexe. Okay. Finalement, David arrive à conquérir Jérusalem. Et son but, c'est de construire le temple, qui n'existait pas. Jusque-là, il n'y a pas eu le temple. C'est le temple, c'est Dieu écrit dans la Torah, « Je ferai résider mon nom à l'endroit que je choisirai. » Quel endroit ? Ce n'est pas défini. David et Shmuel ont étudié tous les deux pour trouver l'endroit que Dieu choisira. Bon. Il l'a trouvé, et ok. Donc, sa première chose à faire, quand il a été nommé roi, trouver l'endroit où va être le temple, où va résider Dieu au sein des enfants d'Israël. Ok. Une fois que ça s'est passé, les Philistins, qui étaient les ennemis jurés d'Israël, entendent que leur ennemi numéro un qui avait tué Goliath a été nommé et accepté comme roi sur tout Israël. Tous les Philistins s'allient pour éradiquer Israël et pour tuer David et éradiquer Israël. Il y a 2 batailles terribles où finalement David bat les Philistins. Jusque-là, Israël était semi-indépendant par rapport aux Philistins. Mais avec cette bataille, Israël est complètement indépendant des Philistins. L'arche, alors ça c'est un point fondamental, l'arche d'alliance, où était l'étape de la loi, 50 ans après, ont été pris par les Philistins. Et jusque-là, Shaoul, il n'a pas réussi à évincer complètement les Philistins. Et là maintenant, David va récupérer, maintenant que les Philistins ont été éradiqués d'Israël, il va récupérer l'arche qui était sous domination philistine. Voilà. Et l'arche se trouvait à Kiryat Yarim. Vous savez, évidemment, on se trouve Kiryat Yarim aujourd'hui, en Israël.
Non ? Évidemment.
Comment ?
Évidemment, tout le monde le sait.
Ah, évidemment, comme chacun sait. Ah, ou alors, vous n'êtes pas sans savoir, tu sais, les profs, vous n'êtes pas sans savoir. Est-ce que vous savez où c'est Mevaseret Sion, en Israël ?
C'est la banlieue de Jérusalem.
Oui, mais encore.
Mais encore,
exactement, c'est le mot.
C'est dans le gauche.
Oui, c'est le. Non, c'est beaucoup plus simple. Non, non. Vous prenez la route qui vient de Tel Aviv. Juste avant d'arriver à Jérusalem, à droite, vous avez Mevaseret Sion. Et à gauche, vous avez Abou Gosh. Vous avez Abou Gosh ? Oui, Abou Gosh. Vous voyez ? Et bien, Abou Gosh, à côté, il y a une petite localité qui s'appelle Kiryat Yarim. Et a priori, c'est là où était l'arche. Kiryat Yarim. Dans le verset, c'est écrit Kiryat Yarim. Voilà. Et ça s'appelle Kiryat Yarim. Voilà. Ok, entre parenthèses, j'ai un des fils capitaine. C'est intéressant. Hein ? En passant.
Hein ?
Voilà. Donc, c'est à côté d'Abou Gosh. Juste jouxtant Abou Gosh, vous avez Kiryat Yarim. Ça s'appelle aussi Telstone. Voilà, bon, ok. Tu connais Telstone ? Oui, ça s'appelle Kiryat Yarim. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le Kiryat Yarim biblique ? A priori, oui. Et c'est là où il y avait l'arche. D'accord. Donc maintenant, là, il y avait un gouverneur philistin qui tenait l'arche d'alliance. Mais maintenant que les Philistins ont été éradiqués, David, il va récupérer l'arche. S'il récupère l'arche, il a conquis Jérusalem, on prend l'arche, on l'amène à Jérusalem, et on va construire le temple. Et ça va être... Alors, notre tradition dit que David, c'est la Neshama, l'âme du Mashiach. Donc si ces textes nous racontent ça, c'est que ça va nous enseigner des choses. Hein ? Nous enseigner des choses. Hein ? On va y aller. Alors, chapitre 6 de Shmuel Bet. Vous avez. Va Yosef od David. Donc là, dans l'édition, si vous voulez, une édition avec des commentaires, comme il y a trop de commentaires, ça aurait fait des pages et des pages et des pages et des pages. Alors, j'ai préféré prendre radicalement sans commentaires, mais je vais vous les rapporter oralement dans la mesure du possible. Va Yosef od David et kol bachur Be Israël, Shloshim Aleph. Il a rassemblé encore David, tout homme d'élite dans Israël, 30 000. Vayakom vayeler David, vecholam asher ito mi bale Yehuda, la lot misham et Aaron Elokim, asher nikrashem, shem Hashem tsevaot yoshev akorivim alav. Il s'est levé, il alla et tout le peuple qui était avec lui, du lieu dit Baalé Yehuda. Alors, Baalé Yehuda, les commentateurs disent que c'est Kiryat Yarim, de Baalé Yehuda, pour faire monter de là-bas l'arche de Dieu, dont le nom est appelé le nom de Dieu des armées qui habite, qui siège parmi les chérubins. C'est-à-dire, Le nom de Dieu est appelé ici Hashem Tzevaot. Le nom Tzevaot, peut-être vous connaissez ce nom, c'est le Dieu des armées. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que Tzevaot représente le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est un ensemble d'une multitude de de groupe. C'est-à-dire, fondamentalement, le peuple d'Israël n'est pas homogène. Il est un ensemble de groupes, comme des armées, si vous voulez. Dans l'armée, tu as les fantassins, tu as l'artillerie, tu as la cavalerie, tu as la marine, tu as l'aviation, etc. Donc dans le peuple d'Israël, tu as plein de sortes, tu as 12 tribus, à l'intérieur des tribus, tu as des sous-groupes. Ça veut dire, on va dire, tu vas demander à quelqu'un, c'est quoi être juif ? Ouais, être juif, c'est manger des couscous boulettes le vendredi soir. Bah, tu vas dire ça, il y en a, ils vont dire, non, c'est manger du hareng et se mettre la sauce de hareng sur sa chemise. Donc, c'est quoi être juif, finalement ? Donc, tu as plein de sortes. Fondamentalement, Dieu, c'est celui qui unit cette multitude d'expressions qui est le peuple d'Israël. Donc, c'est le Dieu des groupes et qui siège entre les chérubins. Parce que au-dessus de l'arche, il y avait comme deux statues d'anges en or. L'un représentait un jeune homme, l'autre représentait une jeune fille. Et lorsque une voix prophétique venait au-dessus de l'arche, cette voix venait d'entre les deux chérubins. C'est écrit dans la Torah, lorsque Moïse rentrait à l'intérieur du tabernacle, la voix prophétique venait de l'arche, mais d'entre les chérubins. C'est-à-dire que ça représentait que la voix prophétique vient de l'intérieur d'un dialogue. Il n'y a pas qu'un seul, un seul mode, mais c'est de l'intérieur d'un dialogue que sort la voix prophétique. Donc il a récupéré l'arche, une fois qu'il avait évincé les Philistins. Verset Guimel. Vayarkivu et Aaron Elokim el Agala Chadasha Vayasuhu mi bet Avinadav Asher Bagiva Veuza Vario Bene Aminadav Noagim et Agala Chadasha. Ils firent chevaucher l'arche de Dieu sur une charrette neuve. Et ils l'ont amené de la maison d'Avinadav, c'est-à-dire que l'arche était dans la maison d'Aminadav, donc le gardien de se trouver l'arche, où se trouvait l'arche, c'était M. Aminadav. Donc ils ont amené de la maison d'Aminadav qui se trouve sur cette colline, et Uza et Achio, les deux fils d'Aminadav, conduisent la charrette neuve. Est-ce que vous voyez un problème ici?
Répétition.
Ouais, bah, mais à part ça. Un problème, pas de problème, ça va. Oui. Ça va. Pas de problème.
Et les enfants d'Aminadab, ils prennent.
Ils conduisent la charrette où se trouve l'arche.
Mais depuis la maison de leur père.
Oui, la maison de leur père.
L'arche, sur une charrette, on peut mettre l'arche sur une charrette.
Ah, ça c'est le problème. Pourquoi ?
Non, parce que j'avais l'impression qu'il fallait tous les lévis pour transporter l'arche.
Je vais voir si j'ai des bonbons, je vais voir.
C'est pas sûr. Si.
Ah oui,
c'est la grande classe. Hein. J'ai ramené ça de Simchat Torah. Voilà. Je prône un judaïsme régressif. Alors, ok, donc ce que tu dis, et le problème ici, c'est que c'est écrit dans la Torah que quand on déplace l'arche, c'est l'arche à deux barres et ce sont les Lévites qui portent sur leurs épaules, les gens de la famille de Lévi, la tribu de Lévi, sur leurs épaules, les barres, bah, Katef Issaou. L'arche, ils sont à quatre et ils portent l'arche. Donc pourquoi David a-t-il enfreint ce qui est écrit dans le verset ? Continue. Vous voyez, tout va bien. Et non. Il y a un problème sérieux. Verset d'Alet. Vaïsaou mi bet avinada vacher bagiva imaron aelokim ve achio oler lifne aaron. Ils le portèrent de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline où se trouvait l'arche d'alliance et achio va devant l'aaron pour diriger la charrette. Ve David ve kol bet Israël me sachakim lifne Hashem bechol atze beroshim bakinarot banevalim betupim uba minanalim ubetzel tzalim. Et David et toute la maison d'Israël me sachakim lifne Hashem.
Jouer
au schrock, rigoler devant Dieu, ça veut dire c'est l'heure de gloire est arrivée quoi. C'est marchons, ouais. C'est allons enfants de la patrie, l'heure de gloire est arrivée. Ça veut dire c'est depuis la création du monde, il n'y avait pas eu encore ce moment-là, ils ont récupéré l'arche qui, pendant, je ne sais plus exactement combien d'années, des dizaines d'années, était sous emprise des Philistins. Le temple, il n'y a encore jamais eu le temple comme c'est écrit dans la Torah. Il a défini l'endroit où il va le prendre. Il récupère. Israël a trouvé une indépendance totale. Les Philistins sont complètement battus. Il y a une indépendance matérielle. Indépendance spirituelle, puisqu'il récupère l'arche, et il sait qu'il est le roi véritable du peuple d'Israël, de la tribu d'Yéhouda, il va construire le temple, c'est la fête, c'est la fiesta.
Pourquoi les Philistins, ils avaient l'arche, et qu'est-ce que ça leur faisait ? C'était juste pour le retenir, ou ils en avaient quelque chose, entre guillemets, à faire ?
Dites-moi. Pourquoi il y en a aujourd'hui, ils ont mis une mosquée au truc, je sais pas, ils pourraient nous laisser tranquilles, non ? Non, entre
oui,
nous.
Mais non, justement, ils l'ont pas détruit, donc c'est ça qui m'interpelle.
Comment ?
Comme ils n'ont pas détruit l'arche, ça m'interpelle. Qu'est-ce qu'ils en avaient à faire ? C'était un otage ?
Oui, un otage. C'est montrer qu'ils ont l'emprise sur Israël.
D'accord.
L'emprise pas seulement politique, mais voilà. Ok. Alors, je reprends, David et toute la maison, me sachakim, schrok, ils rigolaient devant Dieu. Regarde, l'expression du verset est forte quand même. Parce qu'on rigole. Avec nous, on aime bien rigoler. Mais rigoler devant Dieu, c'est... On ne sait pas bien qu'est-ce que ça veut dire, rigoler devant
c'est
Dieu.
C'est vraiment rigoler, parce que là, c'est pas de sachakim.
Mais sachakim.
Mais sachakim, c'est jouer.
Il jouait.
Sachakim, c'est rire.
Ouais, il jouait, comme vous avez traduit, hein, il jouait devant Dieu. Il jouait comment ? Devant Dieu, Becholatse Beroshim, avec du bois de cyprès. Bakinorot, avec des luttes. Benevalim. Nevalim, c'est quoi ? Nevalim, en hébreu moderne, c'est la harpe. Moi, je pense que Nevel, c'est une outre, je pense que c'est des cornemuses. Avec des cornemuses. Betupim, des tambourins. Mais Minanalim. Minanalim, c'est ce qu'on. C'est le genre de maracas, là.
Des maracas.
Ouais, avec des manches. C'est la salsa, quoi. C'est le genre de maracas. Oui. Betzel salim. Des castagnettes. Et la cornemuse et machin, ils font les foufous, c'est la fête. Mais ce n'est pas la fête au village, c'est la fête devant Dieu. C'est le moment, c'est l'assomption du peuple d'Israël. On est dans l'assomption du peuple d'Israël. On y est. Voilà. Il y en a qui attendent, vous savez, l'expression, le grand soir. Eh bien, on y est. Vous connaissez l'expression, le grand soir ? Vous savez ? C'est pas l'expression, le grand soir.
J'ai déjà entendu.
Ça. Ouais, le grand soir. Là, ça veut dire quand il y avait l'époque. Parce que le messianisme, c'est quelque chose qui s'est répandu dans. C'est la résolution de l'histoire humaine. Voilà, c'est la résolution. C'est le, voilà. Et on y est. Et on y est. Et c'est la fête. Il y a des tambourins, il y a des maracas. Donc vous voyez, c'est. C'est la réunion de toutes les musiques. Il y a même les Écossais qui arrivent. Les ouais, et c'est quoi Atzeberoshim? C'est les instruments en bois. Comme on dit en français, dans un orchestre, vous avez les bois, vous avez les cuivres, vous avez les vents, machin. Les bois, c'est les instruments en bois. Les hauts-bois, c'est la grosse fête. Voilà. Verset Vav. Vayavou, ad goren Nachon. Ils arrivèrent jusqu'au lieu dit Grange de Nachon. Va Ishlar Uza El Aaron Elokim, Uza envoya vers l'arche de Dieu. Alors, c'est elliptique. Le verset est elliptique. Il envoie quoi? Il envoie son bras. Va Yochesbo, et il a saisi l'arche de Dieu, qui chamtou à Bakar, car les vaches ont glissé. Va Ira Rafashem Beouza, Vayakeusham Elokim Alashal. Dieu se mit en fureur contre Uza. Il a frappé là Dieu sur cette erreur et il mourut. Oh, classe. C'était bien parti. Il y avait même CNN, il était là. Oh, c'est triste. Pourquoi c'est comme ça? C'est bien parti, hein. Oh, surtout la cornemuse. Non, c'est vrai, la cornemuse, j'aimais bien la cornemuse. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Alors, Rashi explique que David s'est trompé. À la châle, il y a une erreur. Il y a deux erreurs. Il y a eu deux erreurs. Donc, Damien, tu as dit que c'est écrit dans la Torah, « Bakatef Issaou », que lorsqu'on déplace l'arche, c'est les Levim qui le portent sur leurs épaules, avec les barres sur les épaules. Et David s'est trompé de quelque chose qui est basique. Et la Gemara dit, donc Rashi rapporte le Talmud, qui dit que quelque chose, même ceux qui commencent dans la Torah, ils savent. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, c'est écrit dans les psaumes, « Ze mirot ayuli chukecha bebet begouray »« Tes décrets sont pour moi des chansons, là où je réside. » Là où je réside, David dit à Dieu, « Tes décrets sont des chansons. »« Ze mirot sont des chansons. » Dieu l'a dit, « Ah bon, c'est comme ça, mes décrets, c'est des mirot. » Tu vas voir que tu vas te planter. Et c'est planté. Et pourquoi Uza? Uza, parce qu'il avait peur que l'arche y tombe. Or, on sait que l'arche était tellement lourd que quatre personnes ne pouvaient pas porter l'arche. On dit, Aaron, nosé et nosav, l'arche porte ceux qui le portent. Alors, Uza, il s'est trompé. Si déjà l'arche porte, soutient ceux qui le portent, raison de plus qu'il se soutient lui-même. Donc, il n'y avait pas besoin de le tenir. Donc c'était une erreur grossière. Alors pourquoi David il s'est trompé?
Ça veut dire qu'il n'aurait pas dû utiliser un chariot?
Deux choses. Il n'aurait pas dû prendre de charrette. Il n'aurait pas dû prendre de charrette. Et deuxièmement, le monsieur là, mais David, bon, on peut se poser la question, pourquoi David n'a pas été frappé, lui ? C'est son erreur à lui.
Et les Léviens aussi, pourquoi eux, ils ont rien... Si c'est leur travail, ils se disent...
Et pourquoi ils ont laissé faire ? Pourquoi ils ont laissé faire ? Bon, alors je vais vous dire, j'ai étudié ça, donc il n'y a pas longtemps, on étudie donc dans l'ordre le livre de Shmuel, on en est là. Alors, la première étude là-dessus, on n'a pas su répondre. Donc, le cours va s'arrêter là. Non, mais... on a su répondre. Après, j'ai laissé mijoter. Après, on a repris. Et on a sorti la démarche suivante. Hein. Alors, c'est vrai, pourquoi les autres n'ont pas, ne se sont pas opposés en disant « Sire ». C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou alors, peut-être au roi, il faut parler plus joliment. Excusez-nous, est-ce que vous pouvez nous faire un cours pour expliquer pourquoi vous faites ça ? Parce que c'était un érudit, d'après nos traditions, le roi David. Expliquez-nous, ce n'est pas contre. Et c'est vrai qu'on ne voit pas qu'ils se sont opposés à ça. Alors, il y a un commentaire qui s'appelle Rabbi David Kimchi. Un commentaire classique, le Radak. Rabbi David Kimchi, il était vers 1150, il était à Narbonne, dans le sud de la France. Narbonne, il y a 800 ans, 900 ans, c'était un des très très grands centres du judaïsme, où il y avait beaucoup de très grands maîtres. Bon, vous allez là-bas à Narbonne aujourd'hui, il y a peut-être une petite communauté. Les gens qui boivent du pastis et qui jouent à la pétanque, mais disons, c'était à l'époque un très très grand centre, Narbonne. En tout cas, Rabbi David Kimchi donne l'explication suivante. Il dit que David a réfléchi comme ça. Dans le désert, quand il y avait le tabernacle, c'est écrit dans la Torah que lorsqu'on déplaçait entre une étape et une autre étape, on démontait le tabernacle. Et c'est écrit dans la Torah que les poutres, les planches du tabernacle, les tentures, on les mettait sur des charrettes. Et l'arche d'alliance, il était porté par les barres, sur les épaules des levim. Et David, il a fait le raisonnement suivant. Là-bas, pourquoi c'était porté sur les épaules? Pour faire une différence entre les barres, les tentures et les poutres, pour montrer que l'arche est d'une sainteté supérieure. Mais ici, on n'est pas en train de déplacer le tabernacle, on est en train de déplacer que l'arche. Donc, il n'y a pas de raison de faire un signe distinctif, on peut le mettre sur des charrettes. Voilà. Bon, mais d'accord, mais pourquoi le faire? Pourquoi, à ce moment, si vous voulez, d'apothéose, ce moment incroyable d'apothéose, pourquoi il tente le diable? Pourquoi il dribble comme ça? Fait classique, quoi. Fait comme on a toujours fait. C'est pourquoi on a toujours... Pourquoi? Il dit, oui, mais peut-être qu'on peut changer. Peut-être on peut changer. Pourquoi? Pourquoi vouloir changer? Il dit, oui, mais là, on ne déplace pas. Donc, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, mais ça, c'est... C'est un raisonnement, mais un raisonnement peut se tromper. Pourquoi il a tenté de faire comme ça? Alors, je propose, hein, ce que je vais vous dire, je n'ai pas vu de commentaire, mais je propose la chose suivante. Que David, lui, il pensait qu'on est arrivé vraiment au temps messianique. Et c'est quoi les temps messianiques, si,